Non, c'était plutôt un film d'horreur réaliste, malheureusement. Et donc, en Ile-de-France, il y a une forte mobilisation. Il y a eu plusieurs manifestations en Seine-et-Marne, la dernière mi-avril à Meaux, qui a rassemblé quand même plus de 10 000 personnes. Et il faut quand même savoir que... Il faut savoir quand même que le gouvernement a proposé effectivement des aménagements, des interdictions de l'exploration ou de l'exploitation de gaz de schiste, mais qui prépare en même temps une réforme importante du code minier. Donc c'est ce que met en avant le dossier des Amis de la Terre, au-delà des conséquences environnementales. En fait, le code minier, c'est un code qui n'est pas très connu, mais qui est assez avantageux pour les exploiteurs du sous-sol, qui en fait date de l'époque napoléonienne, Napoléon III, et qui assez peu de contraintes, hormis une légère concertation, information des acteurs du territoire. Et là, en fait, la réforme proposée, bon, d'après les fuites qu'il y a eu, c'est de carrément annuler toutes ces informations et ces concertations, y compris pour les permis d'exploration, voilà, donc qui ont été délivrés début 2010 et qui ont été découverts par la suite. Et donc début 2011, il y a eu un dénoncement de ces permis d'exploration qui déjà utilisent en fait la fracturation hydraulique, donc ce procédé en fait qui permet de faire exploser la terre, quoi. La roche mère, et qui, déjà dès la phase d'exploration, est dangereux de par les polluants qu'on va, enfin, les produits chimiques qu'on va mettre dans la terre, et donc après la phase d'exploitation qui, là, est encore plus dangereuse pour les populations alentours. Voilà, donc cette réforme du code minier est en train d'être contrée par différentes associations et collectifs.
Parce qu'on voit des groupes non gaz de schiste qui se forment un peu partout en France.
C'est contre les projets d'exploration et d'exploitation. Mmh. Mais aussi, il y a cette réforme du code minier qui risque de faire beaucoup de mal et qui risque d'empêcher en fait tout moyen légal de s'opposer à ces volontés d'exploiter le sous-sol, notamment en Île-de-France.
Parce qu'il y a eu des propositions de loi là, en fait, qui ont été tentées d'être votées, notamment par la droite, et qui légiféraient en partie sur l'extraction des gaz de schiste, pour lequel les Verts, les communistes, ont voté contre. Alors que c'était dans l'esprit, en tout cas c'est ce qu'on voulait nous faire croire.
Pourquoi ? Effectivement, parce que selon eux, c'était une préparation d'une réforme du code minier qui était encore plus scélérate que les quelques projets actuels d'exploration de gaz de schiste en fait, et de pétrole de schiste.
Ouais.
Donc l'affaire n'est pas terminée, ça se prépare de chaque côté. Mais donc je vous invite, si vous pouvez, à lire ce dossier vraiment bien documenté sur les gaz et huiles de schiste du numéro du printemps 2011 de La Baleine des Amis de la Terre. Voilà pour les gaz de schiste aujourd'hui.
Bah merci beaucoup Clément pour ces informations sur ce thème. Donc bah on va clôturer l'apéro presse avec une petite pause musicale et puis après on poursuivra avec notre invité.
C'est l'apéro presse le plus court que j'ai jamais fait dans cette émission de la bande à bébé.
Un quart d'heure.
On devient de plus en plus pro. Donc voilà notre invité, donc Aurélia de.
C'est Cyril qui nous fout la pression derrière sa vitre.
Donc voilà. Et après, bah, on discutera avec Aurélia de l'Association végétarienne de France. Tu voulais rajouter un... Non. Et donc là, une petite pause musicale avec un morceau de Manbus.
Now you become long plesia. Thank you long olija, thank you long you fala. Something serious, emi must come out. Something serious, emi must come out. Me observe you love him, and I buy you share him. Every day and every night. Come and join them, celebrate them. Come and join them and enjoy them. Something serious, Emmy must come out. Something serious, Emmy must come out. Something serious, Emmy must come out. something serious, Emmy must come out.
Alors, on est de retour avec la bande à Bébert dans Zoom Écologie et nous recevons Aurélia.
Bonsoir.
Donc, tu es membre notamment de AVF, donc qui est l'association...
L'Association végétarienne de France.
Alors, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, la présenter ?
Alors, l'Association végétarienne de France, elle est là pour promouvoir le végétarisme en France comme étant la solution la plus simple et la plus efficace pour limiter, pour la planète, pour pour les animaux et pour la santé humaine. Donc, la meilleure alimentation qui soit. Donc, notre objectif, c'est de répondre aux interrogations que les gens se posent sur cette alimentation, aussi bien sur les raisons de pourquoi devenir végétarien que comment y arriver, comment mettre en place une alimentation végétarienne.
Voilà, et donc, la bande à Bébert t'a invité pour parler donc, de l'animal, de l'homme et de l'environnement. Donc, voilà, donc on se pose plein de questions sur ces trois thèmes, comment ils sont reliés, etc.
Donc, sachant qu'en plus, on a un groupe pour le coup où il y a des végétariens dans le groupe et d'autres un petit peu moins végétariens.
Un petit peu.
Je pense à Cyril pour ne pas balancer.
Beaucoup moins.
Mais après l'émission, il va peut-être changer un peu d'avis.
Alors,
il n'est pas tout seul.
Il est dur à cuire.
Il n'est pas tout seul, j'en connais qui mangent du foie gras aussi.
Ah, pourtant, on a fait une émission, on a parlé du foie gras, mais je ne sais pas s'ils ont été vraiment convaincus. On verra ça Noël prochain. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, donc là, on va un petit peu se concentrer sur la consommation de viande. Est-ce que tu peux nous dire déjà ce que ça représente en France, la consommation de viande.
Alors, je vais commencer par un chiffre un peu différent que la conso, ce sera sur la production pour donner un peu... je pense qu'on ne réalise pas toujours l'importance que ça représente, la production. Là, c'est des données 2008 que je vais vous donner. Au niveau mondial, on a tué plus de 60 milliards d'animaux. Alors, donc, quand on dit 60 milliards d'animaux, c'est les animaux terrestres, ça ne comprend pas tous les poissons et autres. Si on ajoute les poissons, donc là, on ne peut plus parler en nombre d'animaux parce que c'est colossal, mais ça représente 143 millions de tonnes. Un poisson, en général, ce n'est pas très lourd, donc je vous laisse imaginer la quantité d'animaux que ça représente. Donc ça, c'est la consommation, enfin la production au niveau mondial. En France, on a la production, c'est 1,1 milliard d'animaux. Donc là, toujours d'animaux terrestres. Et pour répondre plus précisément à ta question sur la consommation de viande annuelle par habitant, on est en France, on est l'un des pays européens les plus gros consommateurs de produits d'origine animale. Et on consomme 96 kilos de viande, plus un peu plus de 35 kilos de poisson. Donc quand même, une grosse part de notre alimentation est constituée...
Tu dis c'est 96 kilos, c'est par
habitant.
Par
habitant et par an. Idem pour le poisson, 35 kilos par habitant et par an. Donc, voilà.
Et en fait, donc, par habitant, ça veut dire aussi les végétariens.
Oui, c'est un chiffre divisé par le nombre d'habitants. Donc voilà, comme il y a quand même un certain pourcentage en France de végétariens, ça, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui sont largement au-dessus de ces quantités-là de viande consommée.
D'ailleurs, ça, c'est un chiffre que tu connais, passant justement la part de végétariens, végétaliens dans la population française. Est-ce qu'on le sait, d'ailleurs, ou pas ?
Alors, il n'y a pas d'études, d'enquêtes qui ont été faites, mais on estime qu'il y a à peu près, il y a quelques pourcents, dans les 3% de la population française qui serait végétarien. Donc encore, en France, on a un chiffre plus restreint que des pays comme l'Allemagne ou l'Angleterre, qui sont beaucoup plus nombreux que ça, ou même aux États-Unis. Par contre, on sent qu'il y a une tendance à la hausse. En tout cas, nous, au sein de l'Association végétarienne de France, on a de plus en plus de gens qui nous posent pas trop de questions sur le pourquoi, mais beaucoup sur le comment. Et il y a eu beaucoup de livres qui sont sortis dans l'actualité ces derniers temps, notamment « Faut-il manger des animaux ?» de Jonathan Safran Foer. Il y a eu Bidoche il y a quelques années également, donc il y a eu des livres qui ont fait réfléchir. Et donc je pense qu'on commence à... Ça devient un peu moins tabou et difficile d'aborder le sujet du végétarisme en France.
Donc tu nous as dit, il y a un nombre impressionnant d'animaux. Alors j'oublie toujours, tu nous as dit...
60 milliards au niveau mondial et en France, on abat 1,1 milliard d'animaux.
Donc 1,1 milliard en France, 60 milliards dans le monde entier. La majorité de ces animaux, sont dans des élevages intensifs.
Oui.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des conditions de vie de ces animaux dans ces élevages ?
Oui, alors là, je vais partir sur des chiffres pour commencer, et des chiffres français, parce que souvent, on s'imagine que, voilà, que quand on cite que c'est de l'élevage intensif, on pense toujours aux États-Unis et ses grandes exploitations de vaches notamment, mais il faut savoir qu'en France aussi on pratique essentiellement l'élevage intensif. Pour donner quelques chiffres, c'est 82% des poulets de chair qui sont élevés sans accès à l'extérieur, c'est 80% de poules qui sont dans des batteries de cage, les poules pondeuses, c'est 99% des lapins qui sont également élevés en batterie, et pour les cochons qui viennent beaucoup de Bretagne, c'est 90% qui sont élevés sur caillebotis en bâtiment. Donc voilà, c'est vrai qu'en France, il y a encore les bovins qui ont souvent un accès à l'extérieur, même s'il y en a aussi une partie d'entre eux qui passent leur vie en stabulation, enfermés dans des grands bâtiments. Donc il faut savoir qu'en France aussi, c'est essentiellement de l'élevage intensif que l'on pratique. Et qui dit élevage intensif, dit des conditions de vie pour les animaux qui sont loin d'être glorieuses.
Ces animaux, il faut les sélectionner. Est-ce que tu peux nous en...
Voilà, alors on peut citer quelques exemples. C'est vrai que on est dans une agriculture productiviste. On est loin de l'image de la petite ferme qu'on nous vend dans les livres pour enfants, où on a des vaches souriantes qui se promènent avec des cochons tout aussi souriants dans une petite ferme. Et puis,
même dans les publicités, hein. Souvent,
et c'est les images qu'on a à la publicité. Pour des camemberts, on a une jolie vache souriante. Et puis pour une tranche de jambon, on a un petit cochon qui rigole aussi. Donc voilà, on est loin de ces images d'Épinal dans la réalité.
On fait des massages aux vaches aussi.
Et pour leur rentabilité. Donc, par exemple, pour citer, on peut prendre l'exemple au niveau des poules pondeuses. On a la souche, on a décrété qu'il y a une souche de poules dites pondeuses et poulets de chair. Et quand on a besoin de poules pondeuses, ce sont les femelles qui pondent des œufs. Donc, ce que l'on fait, c'est que dans les incubateurs où on fait éclore les poussins, on a autant de poussins mâles à peu près que de poussins femelles. Donc, comme on veut que les femelles, la solution la plus économique, c'est de broyer vivant ou de gazer ces poussins mâles. Donc, voilà, c'est un exemple de ce que l'on fait. Donc, c'est quand même dire qu'il y a déjà la moitié de ces poussins qui sont exterminés de cette façon. La productivité, elle est également poussée. Toujours en parlant des poules, il y a encore quelques années, les poules qui étaient dans la cour de vos grands-parents ou arrière-grands-parents, si elles faisaient une soixantaine d'œufs dans l'année, c'était bien, vos grands-parents étaient contents. Maintenant, elles sont à 300 œufs par an.
Et comment on fait pour justement...
Ça a été à force de sélection de ces poules, de rentabilité, de les mettre dans des hangars à la lumière pour les faire, leur donner l'impression qu'elles sont 20 heures sur 24 à la lumière, pour leur donner l'impression que c'est la saison de...
On contrôle la lumière pour accélérer leur rythme.
Voilà, c'est... On a sélectionné, d'une part, on a trafiqué, entre guillemets, ces animaux, et puis on a les conditions de vie de ces animaux. Et donc voilà, on arrive à des niveaux. On a la même chose avec les vaches laitières qui sont poussées, qui ont été sélectionnées pour faire des quantités de lait qu'elles ne sont même plus capables de supporter. Elles ont beaucoup été sélectionnées pour pouvoir produire une grosse quantité de lait, 7 à 10 fois plus que ce qu'elles produiraient normalement, ce que produisaient les vaches avant. Et ce qui fait qu'elles, même elles, elles ont souvent des mammites, des inflammations des pies, parce qu'elles sont tout le temps avec des quantités énormes de lait. Et puis elles supportent même plus leur poids, elles ont souvent des boiteries, parce que voilà, elles ne supportent même plus leur poids au niveau de leurs genoux. Donc ces animaux-là ont été sélectionnés pour être rentables, et pas du tout, et au détriment d'autres autres organes, de leur qualité, qualité de vie.
Il y a aussi des mutilations qui sont...
Ça, c'est un autre aspect qui est très important dans l'élevage industriel et dans l'élevage intensif. C'est-à-dire que les animaux, ils sont entassés, parce que là aussi, moins on a de place, plus on concentre d'animaux dans un petit hangar, et ben plus c'est rentable. Donc les animaux, quand ils sont entassés entre eux, c'est un peu comme certaines personnes dans le métro qui ont envie de se taper dessus. Aux heures de pointe. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on mutile ces animaux pour qu'ils puissent cohabiter ensemble. La technique qu'on a trouvée, c'est pas de mettre des animaux qui soient dans des conditions naturelles qui leur permettent de vivre bien, mais c'est de les entasser et de les mutiler pour les adapter à ces environnements. Donc, on peut citer, pour les poules, on va épointer les becs. On va aussi couper les queues des cochons, notamment. C'est assez... on leur coupe pour éviter qu'ils risquent de se les mordre, ce qui est un comportement qu'on ne retrouvera pas s'ils avaient de l'espace, mais là c'est un comportement qui est lié aux conditions d'élevage. On va rogner les dents des cochons, on écorne les veaux également, et il y aura la castration des porcs, des veaux, des chapons. Donc voilà.
Ça, c'est des mutilations qui sont faites sans anesthésie, ouais. Évidemment, à vif.
Oui,
tant qu'à faire.
C'est, voilà, le but, c'est de faire rapide et de faire économique. Ce n'est pas de faire du bien-être animal.
C'est vrai que j'avais vu un reportage pendant une de mes insomnies sur la 5. Justement, c'était des castrations alors de moutons. Alors ça se passait certes chez les Finnois là-bas, et ils faisaient ça à coup de genre ils étaient coincés avec l'arrière-train et avec les dents tirer bon les roubignoles, et à coup de couteau comme ça tac d'un coup, et c'était impressionnant parce que bon ils en faisaient 10 à la minute quoi, et c'était genre t'es un peu bon.
Et il faut pas.
Tu pars te recoucher direct.
Oui, on fait ça même pas sommeil.
Voilà, on part se recoucher ou on réfléchit à ce que ça signifie, ce que ça représente, et on se demande si on veut adhérer à ce système-là de production. Et chacun peut changer son mode de consommation. C'est un acte politique aussi, le végétarisme.
D'ailleurs, ce système a un impact important quand même sur l'environnement.
Alors, ça a des impacts environnementaux, comme toute grosse production de masse, je pense. Ce qu'on peut peut-être citer, un des premiers qu'on peut peut-être citer, parce que c'est d'actualité en ce moment, on parle beaucoup de sécheresse. Ce qu'il faut savoir, c'est que la production, la production de viande, elle réclame beaucoup d'eau. Il y a à la fois l'eau qui est nécessaire pour irriguer les cultures. Typiquement, le maïs produit en France, quasiment tout le maïs est destiné à l'alimentation des animaux. Et c'est l'une des cultures les plus irriguées. Et en plus, une culture qui demande de l'irrigation au moment où on a le moins d'eau disponible en France. C'est-à-dire, en plein été, quand il fait très chaud, qu'il faut beaucoup d'eau, c'est au moment où nos réserves sont les plus minces. Et c'est à ce moment-là que le maïs demande à être irrigué. Et c'est 80% qui est destiné à la consommation des animaux.
Et d'ailleurs, une grosse part est même exportée en fait aux États-Unis pour être transformée là-bas, pour être renvoyée chez nous, notamment pour le maïs. Donc ça, une deuxième perversité.
Voilà, il y a beaucoup d'aberrations dans la production industrielle. Ça, c'en est une parmi de nombreuses autres. Donc c'est vrai que dans les besoins en eau des aliments, on peut citer quelques chiffres aussi. Pour faire des pommes, il faut 700 litres d'eau pour avoir un kilo de pommes, ou de pommes de terre, 900. Pour avoir du céréal, des pains, c'est à peu près 1300 litres. Si vous voulez un poulet, c'est 3900 litres. La viande de porc, ça commence à être 4800. Et un kilo de bœuf, c'est 15500 litres d'eau. Donc voilà, c'est des chiffres qui parlent un peu d'eux-mêmes sur la quantité d'eau nécessaire pour se nourrir avec de la viande. Donc si on regarde un peu par rapport à une alimentation au quotidien, ce qu'on consomme en calories, il y a eu un calcul qui avait été fait, par la FAO, qui s'était basé sur des données alimentaires de la France, où en 2005, en France, on mangeait en moyenne 3600 calories qui avaient été consommées, et dont 1200 à peu près d'origine animale. Et ce calcul, la FAO avait calculé ce que ça représentait en eau, et on arrivait à 8500 et quelques litres d'eau. Alors que si ça avait été du pur végétal, une alimentation végétale, on était à 3600. Quoi, d'une façon simple d'économiser plus de 5000 litres d'eau par jour, une seule personne peut économiser ça par jour en faisant une journée végétarienne dans la semaine.
Parce que tu nous parlais tout à l'heure, genre j'ai pas entendu, mais tu parlais justement que la FAO préconisait ça, justement.
Des recommandations de la FAO et du GIEC.
Que tu disais soft, pour le coup, parce que c'est vrai que c'était une journée par semaine, végétarisme.
C'est vrai que c'est une première étape d'avoir un jour végétarien par semaine. Et d'ailleurs, au niveau de l'association végétarienne, on a une campagne qui s'appelle « C'est lundi, c'est végé ». Pour inciter justement les gens à manger végétarien un jour par semaine. Donc là, on va relancer cette campagne à partir du mois de juin, en informant aussi comment mettre en place ce dispositif, parce que ce qu'il faudrait, c'est que tout le monde joue le jeu, qu'on puisse manger végétarien aussi facilement dans la restauration collective, ce qui est encore assez difficile aujourd'hui. C'est pas assez vrai. Voilà. Ça s'améliore, mais ça reste difficile. Donc voilà, d'avoir des vrais repas équilibrés, appétissants aussi dans la restauration collective.
Parce que du coup, la restauration collective, ça me fait penser, c'est vrai qu'on avait des discussions. Les gens oublient souvent quand on discute avec eux, et toi, alors est-ce que tu fais des efforts pour manger moins de viande ? C'est vrai que les gens omettent souvent le midi en entreprise. Mmh. C'est-à-dire que c'est souvent une parenthèse, et d'ailleurs c'est vrai, pas que pour l'alimentation, mais même dans le domaine de l'énergie, des transports. C'est vrai que du coup, on n'est pas maître de ce qu'on consomme, un peu moins, enfin plus difficilement.
On l'est, mais c'est vrai que le choix, voilà. Voilà. Il y a toujours plusieurs choix, il est toujours possible de manger végétarien, mais c'est sûr que spontanément, si on n'a pas cette sensibilité-là, et que les trois plats proposés, c'est le steak haché, la côte tête de bœuf et la merguez, voilà, c'est sûr que s'il y avait une alternative de présenter, elle aurait du succès. Des lasagnes aux épinards, elles auraient du succès.
Ça va nous donner faim, les lasagnes. Vous en parlez de lasagnes aux épinards.
Ouais, c'est vrai que ça va être... c'est un peu l'heure.
Donc, on poursuit. Alors, donc là, tu nous parlais au niveau des impacts environnementaux, du gaspillage d'eau, enfin, au moins de la forte, des forts besoins en eau que demande la culture d'animaux, si on peut parler comme ça.
Je peux donner aussi un autre petit chiffre qui est marquant. C'est vous avez le choix entre manger à peu près 450 grammes de viande ou prendre des douches pendant 6 mois, niveau quantité d'eau. Voilà, vous pouvez choisir. 6 mois de douche ou 450 grammes de viande?
On a une demi-heure pour réfléchir. on passera au vote en fait à la fin de l'émission.
Non, on notera, on en reparle dans 6 mois.
Ça,
là, on parlait de culture céréalière. Il me semble qu'elle est responsable en partie de déforestation.
Il y a aussi de la déforestation. Alors, sur l'eau, ce qu'on peut signaler aussi, c'est que l'élevage, c'est aussi une source de pollution de cette eau. On ne fait pas que la gaspiller, on la pollue, juste pour dire que l'élevage, c'est la plus grande source de polluants de l'eau, avec les déchets animaux, les antibiotiques qu'on va retrouver dans l'eau, les hormones, les produits chimiques des tanneries, les engrais, les pesticides qui ont été utilisés pour toutes les cultures fourragères. En Bretagne, c'est vrai qu'on entend souvent parler des pollutions de l'eau et du lisier.
On en parlait la semaine dernière, justement, que FNE avait fait une...
Voilà, c'est un sujet, c'est quand même un sujet récurrent en France, donc là aussi, j'insiste bien sur le fait que...
Je pense qu'un bon accident nucléaire, ça fait à peu près pareil, je sais pas. Enfin bon, disons que l'élevage, c'est plus continu, quoi. Les accidents nucléaires, c'est plus temporaire.
Quoique, après, temporaire, bon. Après, chacun peut faire des choix au quotidien qui permettent de plus ou moins réduire ces effets-là. Quoi. On peut tous aussi... On a une part pour agir.
Et sur la partie de l'antibiotique, là, parce que alors, je me rappelle avoir visité il y a 2 ans, justement, alors une station d'épuration, je vais dire quel rapport, mais justement, dans les stations d'épuration, ce qu'ils avaient constaté, c'est qu'au moment des rejets, en fait, donc, bon, ils épurent l'eau, ils la rejettent après dans les rivières, en fait, quand elle est devenue... un peu plus propre en tout cas, et ce qu'ils constataient, c'est qu'il y avait une transformation du sexe en fait
des poissons
à la sortie des stations d'épuration, et notamment lié alors pas aux antibiotiques, mais justement aux produits donc aux pilules que les femmes prennent. Du coup ça avait un impact sur les poissons qui était quand même vrai que ça m'avait marqué sur le coup, et je me demandais si c'était quelque chose d'ampleur, est-ce que c'était un phénomène sur lequel on avait encore beaucoup... Enfin, on n'a pas beaucoup de recul, j'imagine. Est-ce que c'est un phénomène qui est si récent, qui existe depuis longtemps, ou je ne sais pas si c'est quelque chose... C'est un point,
ça fait quelques années dont on en parle. Les premières fois où il y avait eu on s'est aperçu qu'il y avait ces changements de... Enfin, c'est pas vraiment changement de sexe, mais ces modifications chez les poissons, on ne savait pas forcément... Enfin, on a beaucoup cherché, on s'est demandé si c'était les pesticides, les engrais ou des résidus de médicaments. C'est vrai que là, a priori, c'est à peu près attesté que ce seraient des résidus de pilules. Après, là, moi, c'est vrai que j'ai pas les données chiffrées, je sais pas quelle est l'importance de ces aimants-là. Après, la France fait partie des pays qui sont très, très consommateurs de médicaments, à la fois en la santé humaine et en santé animale. Donc, ces résidus, ils se retrouvent à la fois dans la chair animale que vous consommez et dans l'eau.
D'accord. Alors, la déforestation,
La déforestation.
Bon, décidément, la déforestation, on a plein de forêts, là.
Alors, c'est vrai que c'est un rapport de la FAO qui indiquait que l'élevage était responsable de 18% des émissions annuelles de gaz à effet de serre. Alors, c'est un chiffre qui est sujet à discussion parce que d'autres ont fait d'autres calculs et ils sont tombés sur d'autres chiffres. Ça dépend des modes de calcul des différents organismes. Par contre, une chose où tout le monde est d'accord, c'est pour dire que ça représente quand même une part importante. Donc, peut-être que le chiffre de 18% n'est pas le chiffre à retenir impérativement parce que d'autres organismes ont trouvé des chiffres différents. mais en tout cas une certitude, c'est que l'élevage est l'une des émissions, les sources d'émissions les plus importantes des gaz à effet de serre. Et notamment, ça génère du CO2, du méthane et de l'oxyde d'azote. Et puis, il y a aussi ce problème de déforestation que tu évoques. Il y a deux raisons principales pour la déforestation. Il y en a beaucoup, notamment en Amérique du Sud, tout ce qui est Brésil, Argentine. Et ces zones-là sont déforestées à la fois pour faire des grandes zones d'élevage extensif ou bien pour faire de la culture de soja ou d'autres céréales qui sont destinées à l'alimentation animale. Mmh. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de déforestation qui est en conséquence directe ou indirecte, c'est pour l'élevage des animaux.
Mmh. C'est vrai que ça paraît un peu incohérent à l'heure où on parle quand même de populations qui meurent de faim, de voir qu'une grande partie des cultures sont réservées pour...
Il y a une grande partie des cultures, une grande partie des terres. Il y a deux tiers des terres sont destinées à l'élevage, soit en pâturage, soit en culture pour nourrir des animaux. Mais deux tiers des terres cultivées dans le monde, c'est lié à l'élevage. Donc c'est vraiment énorme. Par rapport à la déforestation, Greenpeace avait fait une enquête pendant 3 ans et ils ont publié un rapport en 2009 et pour eux, l'élevage bovin était responsable de 80% de la destruction de la forêt amazonienne. Donc pareil, on ne parle pas de chiffres anecdotiques, 80%. Donc c'est vraiment largement la première cause. Et l'Union européenne, on est un importateur important de bovins. Et 80% des importations de bovins de l'Union européenne viennent d'Amérique du Sud. Donc là aussi, l'Europe et donc la France jouent une part non négligeable dans cette déforestation. Alors d'accord, c'est pas chez nous que nous déforestons, c'est pas en France qu'on déforeste, mais la déforestation d'Amérique du Sud, l'Europe, elle joue un rôle non négligeable.
C'est marrant parce que du coup, on a une image quand même française, justement, que ce soit les histoires après la crise de la vache folle, où on a l'impression qu'on consomme que de la viande française. Parce qu'en fait, on le voit partout. Alors, est-ce que c'est vrai en France et pas vrai dans les autres pays ? Ou est-ce que c'est que il y a la viande qu'il y a dans, disons, pas le steak qu'on fait cuire, mais plutôt la viande qu'on voit dans les produits transformés, qui, elle, pour le coup, ne vient pas forcément de France.
Alors voilà, quand on parle de viande, c'est vrai que si vous allez chez le boucher du coin, il y a des chances que ce soit de la viande d'origine française. De même que les gens, la plupart des gens, si vous leur dites qu'ils mangent une côte de bœuf, si vous leur dites que ça vient d'une vache laitière de réforme, ils vont dire non, alors qu'en France, 70% c'est des vaches laitières de réforme qui sont...
Vaches laitières de réforme, qu'est-ce que c'est ?
C'est des vaches, dans le même principe, on sépare les vaches qui sont faites pour une chose ou pour une autre. Les vaches laitières, ce sont celles qui sont là pour donner du lait. Donc on leur fait faire des veaux à Tire-Larigot, tous les ans un veau. On leur prend le veau dès le premier jour de la naissance ou le deuxième éventuellement. Et voilà, on prend le lait de la vache qui était destiné au veau pour le donner aux humains qui n'en ont pas besoin, au passage. Et donc voilà, et ces vaches, elles subissent un... elles ont un rythme assez conséquent pour donner du lait, donc elles sont très vite épuisées. Donc au lieu de vivre 25 ans comme elles le feraient dans la nature, elles vont vivre 5, 6, 7 ans. Et après, elles sont plus, entre guillemets, plus bonnes à produire du lait, donc on les envoie à l'abattoir. Et
la vie de la vache, c'est impressionnant.
Nous sommes dans un cycle de rentabilité, oui. Enfin, le but, c'est quand même ça avant tout.
De toute façon, on arrive à un point où l'animal est un produit, quoi. C'est plus du tout
l'animal
un être
est un produit,
vivant.
L'animal est une machine. On ne reconnaît pas du tout. Autant dans la législation française, c'est indiqué que l'on reconnaît que l'animal est un être sentient, c'est un être sensible, qui ressent la douleur et donc on doit en théorie prendre, on devrait en tout cas prendre en compte son bien-être. Ça, c'est sur le papier.
C'est vrai qu'il y a des animaux qu'on a du mal à imaginer ailleurs que dans l'élevage, en fait. Je pense, je sais pas, à la vache, au cochon.
Mais je suis sûre que quand tu penses à la vache, tu t'imagines dans un pré.
Tout à fait.
Voilà.
Mais pas vers chez moi, il n'y a pas de vache, hein, on a que des vignes.
Non, mais c'est vrai que c'est plus le cas. Et donc la consommation, enfin, on ne sait plus comment on en est arrivé là. On est en train de parler au départ de la déforestation et de la consommation de la viande française. Je n'ai pas le chiffre en tête de qu'est-ce qui est de la viande vraiment française, mais c'est sûr que on était parti en disant chez votre boucher, vous aurez de la viande probablement, pas toujours, mais en tout cas probablement française. Par contre, dans votre plat préparé... je sais pas ce que vous mangez, où il y a qui est tout mélangé, là on sait plus à quoi ça ressemble dedans, là, hachis parmentier voilà. Par exemple.
Ah ben voilà, c'est l'exemple qu'on va prendre.
Voilà, je ne suis pas persuadée de l'origine de la viande. Et en tout cas, pour avoir des produits à bas coût, il n'y a pas de miracle, il faut faire un sacrifice, et en général c'est sur le dos des animaux que sont faits les sacrifices.
Et là on parle beaucoup de vaches, de poules, mais il y a aussi pêche qui abîme beaucoup les fonds marins.
Alors la pêche, ouais, c'est un peu le même principe, au savoir que la pêche c'est devenu aussi une industrie très productiviste. Donc c'est des énormes bateaux qui ratissent les fonds marins. Donc c'est des prises dans des quantités assez impressionnantes. Et dans ces énormes prises qui sont faites par ces bateaux, tout n'est pas à consommer. Tout simplement, si vous prenez un bateau, s'il part... Alors l'exemple le plus frappant, c'est peut-être celui des crevettes qui sont pêchées avec ces bateaux qui ratissent la mer. Ils vont récolter plein d'autres choses que des crevettes. Et comme eux, ils font de la crevette, tous ces poissons qui sont inutiles vont être rejetés en mer. Et dans le pire des cas, ça peut atteindre des fois jusqu'à 90% de ce qui est pêché. Mais donc d'une façon générale, il y a un épuisement des ressources, parce qu'on fait, une énorme... Quand on pêche beaucoup, on peut parler de surexploitation. Et il y a ces problèmes-là, de ces grands filets qui ratissent de tout, qui ne font pas de la pêche sélective. Donc du coup, on prend de tout et puis on rejette en mer à moitié mort ou déjà mort tout ce qui est soit trop petit, soit des poissons qui ne sont pas des poissons consommables, et on les rebalance à la mer.
Alors je lisais en préparant un petit peu l'émission qu'il y avait même une méthode de pêche par explosion. Alors apparemment, c'était faire exploser, je sais pas, les fonds marins pour que sortent les derniers poissons. Donc c'est hyper violent comme...
Ça fait film violent, à gag, en fait, ça fait comédie.
Ça détruit les fonds marins, les coraux.
C'est une nouvelle technique de pêche par charge explosive.
C'est comme les gaz de schiste, on fait exploser et puis on récupère, quoi.
Du coup, ça endommage les récifs de corail.
On touche le fond, quoi.
Mais c'est vrai qu'au niveau de... Nous avons un grand humoriste à la table. Au niveau de ce qu'on appelle donc les prises accessoires, donc ce qui désigne les poissons qui sont pêchés et rejetés en mer parce que c'était pas les bons poissons, ça représente, c'était WWF qui estimait dans un rapport en 2009 que ça représente à peu près sur 100 tonnes de poissons débarqués et commercialisés, il y en a 40 tonnes qui sont pêchées et rejetées à la mer. Donc quand même 40% qui est pêché, rejeté pour rien. Donc c'est quand même ces prises qu'on dit accessoires, on pourrait avoir l'impression que c'est pas grand-chose une prise accessoire, mais c'est quand même 40% de ce qu'on pêche. Et aussi, on peut parler peut-être des ravages de la pêche fantôme. Est-ce que ça, vous voyez ce que ça peut bien être, la pêche fantôme ?
Ah non.
Et ben c'est voilà, c'est...
Non. Sur les fantômes.
Désolé, j'ai pas de répartition.
Pas de répartition. Bon,
pourtant, on a fait une émission avec Sea Shepherd.
Ils auraient dû vous expliquer ça. Parce que justement, ça va être par exemple ces filets abandonnés parce qu'ils sont cassés ou autres, ou ces équipements de pêche qui sont cassés, qui restent en mer, qui sont abandonnés en mer. Et ben ces filets maillants dérivants, et ben même s'ils sont plus rattachés à un bateau qui veut les pêcher, ils continuent à attraper en fait les poissons. Donc ça aussi, ça fait énormément de dégâts. Parce que ces filets, ils restent en mer et ils continuent à attraper aussi bien des poissons, des tortues, des requins, enfin de tout.
D'accord, mais ça, c'est dû à une négligence des pêcheurs ou c'est...
Déjà, on peut parler de négligence, mais voilà, des filets qui sont cassés et qui sont abandonnés, qui sont laissés en mer, il y en a beaucoup. Donc c'est voilà. Là aussi, quand on parle de prise accessoire ou de pêche fantôme, c'est pas des termes anecdotiques. Et pêche fantôme, on pourrait croire qu'on pêche pas, mais ça engendre. Effectivement, on ne pêche pas au sens récupérer des poissons pour la consommation, mais n'empêche que ces filets, ils sont là et ils font une hécatombe eux aussi à eux tout seuls.
Et je les ai aussi sur les sur les saumons d'élevage qui donc là, enfin, je vois environ un saumon d'élevage d'environ 4 kilos ingurgite près de 400 grammes d'antibiotiques jusqu'au moment de son abattage. Et en fait, ce que je lisais, c'est qu'il y avait un peu une communication entre ces poissons, enfin l'eau de ces poissons d'élevage et et le reste de la mer, et que du coup, bah, les antibiotiques et tous les produits qu'on donne aux poissons d'élevage, bah, dérivent jusqu'aux poissons en pleine mer.
Oui, c'est un risque de les retrouver dans des poissons sauvages. Et on a également ce risque parce qu'ils font des recherches sur des saumons transgéniques également, en disant que voilà, il n'y aura pas de problème, ils seront dans des bassins sûrs, ils ne pourront pas se retrouver en pleine mer. Mais on sait très bien, sur de nombreux sujets, on l'a quand même déjà testé, validé et approuvé, que quand on dit « c'est sûr, il n'y a aucun risque », y a quand même des risques.
Surtout quand ça s'arrête à la frontière.
Bizarrement ça s'arrête à la frontière, on sait qu'il y a des risques. Et donc voilà, ces saumons-là, ils ont à la fois, il y a ce risque-là parce qu'il commence à y avoir des saumons transgéniques. Et puis de toute façon, c'est comme dans l'industrie, c'est comme avec nos cochons qui sont entassés ou des poules qui sont entassées. Les poissons, les saumons aussi n'ont pas d'espace pour bouger, ils sont entassés, ce qui favorise les maladies. Et donc, on leur donne beaucoup d'antibiotiques également pour prévenir ces maladies.
En parlant d'antibiotiques, on peut peut-être poursuivre avec justement l'impact de la consommation de viande et de cette viande sur la santé de l'homme. Si tu as peut-être des choses à rajouter. Ouais.
On peut commencer, puisque là, on est en train de parler des antibiotiques et des saumons, et on sait que ça se retrouve aussi sur les autres types d'élevage. De faire le lien entre l'élevage industriel et la santé publique. Parce que l'élevage en soi est un facteur de risque pour la santé publique. On met beaucoup de ces antibiotiques. On sait que les antibiotiques, à un moment donné, on va les retrouver aussi chez nous. Et donc, c'est un risque d'avoir des facteurs de résistance aux antibiotiques chez les hommes aussi. Et c'est un risque qu'on retrouve déjà. Et puis, en fait, les animaux, ils sont tellement entassés que dès qu'il y en a un qui est malade... c'est sûr qu'il va contaminer ses voisins, mais ses voisins, c'est pas trois animaux au mètre carré, quoi. C'est énormément de voisins, donc c'est un facteur de propagation des maladies qui est extrêmement important. Et c'est quasiment toutes les nouvelles maladies, quand on parle de la grippe aviaire ou la grippe porcine, on a toutes voulu les renommer après pour faire un peu moins le lien avec les animaux, mais ces grippes-là, dans la réalité, elles proviennent de ces élevages. Si on suit la carte, elles suivent les... On a voulu nous faire croire que la grippe aviaire suivait la carte des petits oiseaux migrateurs. C'est bien gentil d'essayer de nous faire croire ça, mais si on regarde vraiment les cartes, elles suivent les grands élevages avicoles. Et pareil pour la grippe porcine, elle est arrivée dans des élevages...
D'accord, c'est vraiment ces conditions qui sont responsables de...
Voilà, c'est les conditions, quoi. Quand il y en a un qui est malade, ça se diffuse à tout le monde. Et puis c'est des virus qui peuvent... on sait très bien... Entre l'homme et notamment le cochon, on a quand même aussi beaucoup de critères de proximité. Enfin, pour soigner, on a quand même aussi utilisé des cochons pour faire des greffes. Donc, c'est pas anodin. C'est qu'il y a des choses qui sont compatibles entre nous. Et donc, il y a des virus qui peuvent passer de l'un à l'autre. Donc, un jour, c'est sûr, moi, je pense qu'on y aura droit si on continue cette façon-là de procéder dans l'agriculture et dans l'élevage industriel. Un jour, on aura droit, on aura un vrai virus méchant qui va se propager dans ces élevages et qui atteindra aussi l'homme. On a vécu... alors, ça ne s'est pas transformé en crise, même si c'était présenté comme le plan catastrophique la dernière fois. Mais je pense que c'était juste un entraînement, entre guillemets, à ce qui va arriver.
Mais là. Il me semblait, alors, de mémoire, que la grippe espagnole était une grippe aviaire, non ?
Oui.
La grippe donc, qui a fait plus de morts que...
Et en quantité,
ouais,
c'était un désastre.
Au 20e siècle.
Ouais. Ça a été un désastre. J'ai plus les chiffres en tête du nombre de morts, mais effectivement, c'était l'une des grippes les plus mortelles qui... Enfin, plus qu'une grippe, quoi. Ça a vraiment été une épidémie extrêmement mortelle. Et ce genre de grippe-là, on n'est pas à l'abri de les ravoir.
C'est pas un fantasme.
Non, c'est pas un fantasme. Mais par contre, voilà, vous avez des grippes aviaires, vous avez des grippes porcines. Je sais pas, vous avez entendu, je sais pas si vous avez entendu parler de la grippe du chou-fleur, mais bon, on n'aura pas ce problème avec les légumes, quoi.
La grippe du chou-fleur.
Les chou-fleurs
sont trop serrés. Hein.
Et on entend aussi beaucoup parler de bactéries. Et d'ailleurs, là, il y a eu en Allemagne plusieurs, il y a eu 3 morts déjà, je crois, là en Allemagne. Lié à une bactérie qui est proche de E. coli, dont on entend souvent parler. Et ils ne savent pas exactement de l'origine, mais c'est un des gros soupçons, c'est que cela provienne, une fois de plus, de la viande, de la viande devenue une viande rouge qui aurait été mal cuite.
D'accord.
Donc voilà, une fois de plus, c'est des maladies
qui poussent. Ouais. C'est parce qu'on pousse aussi à l'extrême la production, quoi. Comme tu parlais de rentabilité économique.
De rentabilité et de quantité. Il faut savoir que si nous, en fait, entre 1950 et 2000, la production mondiale, elle a plus que quintuplé la production mondiale de viande. Et si elle a quintuplé, c'est aussi parce que nous en consommons beaucoup plus qu'avant. Enfin, la production suit la consommation.
Est-ce que ça a justement un impact, le fait de manger trop de viande ? Est-ce que ça entraîne certaines maladies sur...
Alors, la consommation de viande, elle a quand même, là c'est assez avéré, elle a des effets d'augmenter la prévalence de certaines affections. Alors, on ne va pas dire que la viande est à l'origine de toutes les maladies qui soient sur Terre, ce serait excessif, mais on sait que sur les cancers, et notamment cancer côlon et prostate, la consommation de viande a un impact négatif. Les maladies cardiovasculaires... forcément, l'hypercholestérolémie, c'est vrai que le cholestérol, ça se retrouve dans les protéines d'origine animale et pas dans les protéines végétales. L'obésité, l'hypertension, le diabète de type 2. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un certain nombre, l'ostéoporose aussi. Donc il y a un certain nombre de maladies qui sont quand même maintenant, il y a quand même beaucoup d'études qui reconnaissent qu'il y a un lien avéré entre une forte consommation de viande et ces maladies-là. Et ce qui est dommage, c'est que, voilà, c'est vrai qu'en France, on a peut-être des fois tendance à croire qu'on peut... que si on n'a pas de viande dans son assiette, l'assiette est triste, mais il y a plein d'alternatives pour manger bien. Enfin voilà, on peut avoir une alimentation variée, équilibrée.
Justement, Rebecca, tu avais une petite question, quoi. C'était comment...
Oui, parce que... Je pense que la plupart des gens, ils ont tellement l'habitude de manger de la viande et ils pensent que c'est un des ouais. éléments essentiels avec les sucres, avec les féculents, etc., les légumes, qui font partie d'une assiette correcte pour l'alimentation, pour la santé. Donc, mais si on supprimait la viande, ou même si on supprimait une proportion de la viande qu'on mange, est-ce qu'on peut manger... Comment conseiller les gens pour manger correctement tout en supprimant la viande dans leur assiette ?
Alors, supprimer la viande de son assiette, déjà, il faut savoir que ça ne posera pas de problème de santé, on ne risque pas de carence, il n'y aura pas de problème de carence, il n'y aura aucun manque de protéines, on en a largement dans les autres, il y a des protéines végétales. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, ce qu'on recommande, c'est d'avoir un régime équilibré, donc c'est de manger bien sûr des fruits, des légumes, des céréales plus de préférence complètes et des légumineuses. Ça, c'est un peu oublié en France. Légumineuses, ça va être tout ce qui est pois chiches, pois cassés, lenticora, enfin toute la gamme des lentilles, parce qu'il y en a beaucoup, les lentilles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a le soja également qui rentre dans cette catégorie. Donc il y a tous les haricots secs. Donc voilà, il y a plein d'autres pistes à explorer. Il y a beaucoup de graines, il y a tous les fruits oléagineux aussi qui sont excellents à la santé. Donc c'est vrai que changer son alimentation... Ça demande toujours un effort au début de se demander ce qu'on va faire. Ça devient de plus en plus facile parce qu'avant, on n'avait pas forcément toujours... il y a encore 10 ans, il y avait par exemple très peu de plats préparés végétariens. Aujourd'hui, des galettes de céréales, il y en a plein. Enfin, si vous allez dans un marché, dans un magasin bio, vous allez trouver plein d'alternatives végétales. Il y a beaucoup de recettes maintenant qui existent et c'est une alimentation plaisir. Et il y a un concours de cuisine qui va être bientôt lancé, un concours de cuisine végétale. Donc on espère bien justement faire la promotion de ce mode d'alimentation. Et ce sera un concours à la fois ouvert pour les professionnels et pour les amateurs. Donc c'est une cuisine qui est riche et qui est variée. Sur le site d'AVF, sur végétarisme.fr, vous avez plein d'idées recettes. Vous avez des fiches santé aussi pour retrouver un peu les
explications. Parce que c'est vrai qu'il y a un petit peu la peur d'avoir des carences. Ouais. C'est un peu ce qui ressort quand on parle d'une alimentation végétarienne. C'est... Mon Dieu, tu vas avoir des carences en fer, en vitamine B12.
Celles qu'on retrouve le plus souvent, c'est on nous pose beaucoup de questions sur les protéines animales, comment les remplacer. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que les protéines végétales, d'origine végétale, elles sont aussi bonnes que les protéines d'origine animale. On nous pose aussi beaucoup de questions sur le calcium, mais là encore, vous avez beaucoup de calcium dans les végétaux, tout ce qui est les légumes à feuilles vertes. Enfin, voilà, il y a plein de légumes... qui ont du calcium et qui est bien assimilé, surtout si vous mangez beaucoup d'autres fruits et légumes, parce que vous aurez de la vitamine C qui améliore le calcium, la fixation du l'assimilation du calcium.
Et donc on peut trouver toutes les informations sur le site.
Voilà, sur le site végétarisme.fr. Vous avez des fiches santé sur toutes les questions, une sur le fer, une sur le calcium, la vitamine D. Enfin voilà, toutes les carences que vous pourriez avoir peur d'avoir et que vous n'aurez jamais. Et puis, vous avez plein d'idées recettes. Et puis, on a aussi, qui est en téléchargement gratuit, un kit du végétarien débutant qui vous explique les bases, voilà, comment commencer, pourquoi, les bases d'une alimentation équilibrée, des idées de menus, des idées de recettes.
D'accord. Bah, merci pour toutes ces
c'est
infos.
C'est moi qui vous remercie.
Donc, on va passer à l'agenda. Et donc, tu en fais partie. Alors, on commence d'abord par Clément.
Non, pour faire le lien, justement, tu avais des choses à annoncer. Vas-y.
C'est vrai que j'ai deux dates à annoncer. C'est samedi, c'est important de se mobiliser. Vous le savez peut-être, mais il y a la tauromachie, qui est la corrida, qui a été inscrite sur le patrimoine immatériel de la France. On estime, et on est très nombreux, il y a eu, depuis que ça a été dévoilé, il n'y a que des lettres de protestation et des coups de téléphone au ministère de la Culture, parce qu'il faut savoir que d'après les sondages, 76% des Français sont contre la corrida. Donc le voir inscrit comme étant notre patrimoine culturel, c'est assez inadmissible. Donc il y a une grande manifestation le samedi prochain, samedi 28 à 15h. Et ça se trouve...
Rendez-vous place du Palais Royal.
Rendez-vous place du Palais Royal,
et,
voilà.
Et dans toute la France, je suppose.
Il y a deux tractions, oui. Alors c'est important d'être très nombreux à Paris, mais c'est vrai qu'il y a des actions partout en France. Il y a au moins 10-15 autres villes qui organisent des manifestations de protestation ce jour-là également. Et puis il y a une autre date. Pour venir découvrir le végétarisme, notez dans votre agenda le 11 juin, il y a un festival, ce sera à partir de 10h30-11h du côté de la place, du côté de Châtelet, près de la Fontaine des Innocents. Et vous avez jusqu'à 15h plein de stands pour vous renseigner. Vous aurez des dégustations gratuites de cuisine végétarienne. Donc voilà, plein de choses pour découvrir dans la bonne humeur tous ces plats végétariens et comment manger équilibré et des infos santé. Et puis à partir de 16h, pour ceux qui sont végétariens, je passe le message, il y a la Veggie Pride. Donc je ne sais pas si elle est connue, je ne sais pas si vous en aviez déjà entendu parler.
Ceux qui ne sont pas végétariens ne peuvent pas venir du coup.
Si, c'est une manifestation aussi de soutien, de dire on est végétarien, on le revendique, on ne le cache pas et on veut que, voilà, que ce soit reconnu et qu'on avoir, voilà, c'est un peu un acte politique, on veut qu'on reconnaissent notre végétarisme et le droit de l'être et le droit d'avoir des repas végétariens, notamment dans la restauration collective ou dans d'autres endroits. Et il y a une pétition aussi pour ça sur le site végétarisme.fr pour nous soutenir si vous voulez. Même si vous ne mangez pas végétarien, vous pouvez reconnaître que nous, qu'on a le droit de manger végétarien et qu'on devrait pouvoir trouver un plat végétarien, que ce soit dans les écoles ou à l'hôpital.
Ok, bah merci pour cet agenda. Juste pour terminer, je voulais vous annoncer le FRAP 2011, le Festival des Résistances et des Alternatives à Paris, donc comme tous les mois de mai depuis quelques années déjà. Donc ça a commencé hier le 25 mai, ça dure jusqu'au 8 juin, donc il y a un programme assez chargé. Donc chaque jour, une thématique. Et donc, je sélectionne deux dates pour vous sur l'écologie, mais il y a plein d'autres thématiques abordées. Donc, mercredi 1er juin à 19h, il y a une soirée écologie collective au jardin d'EcoBox dans le 18e métro Max Dormois. Donc, avec rencontres d'AMAP, de jardins partagés, boulangerie autogérée et bien d'autres. Et le mouvement des villes en transition également. Et deux jours plus tard, le vendredi 3 juin, dans le 20e métro Porte de Bagnolet au Carrosse à 19h, vous avez aussi une projection débat sur les énergies destructrices, donc nucléaire et gaz de schiste notamment, fausse solution au capitalisme avec divers collectifs et associations. Donc vous retrouverez toutes les dates et les lieux sur frappe2011.org. Voilà.
Bah, merci Clément. Donc on va se quitter. Merci beaucoup Aurélia d'être venue.
C'est moi qui vous remercie.
On a appris plein de choses ensemble. Donc c'était
on
vraiment
a très fait, hein,
et on va devenir végétarien, n'est-ce pas ?
Et est-ce que sans aller jusqu'à devenir végétarien, pensez à au moins un jour par semaine l'être.
Merci.
Le lundi, c'est ouais, ça. C'est...
Le lundi, c'est
alors,
OK.
Nous on propose le lundi, mais vous choisissez le jour que vous voulez. L'essentiel c'est de au moins un jour par semaine de manger végétarien.
Et moi je voudrais juste préciser une chose parce que en France souvent le mot végétarien
C'est fini.
Ouais. Il faut qu'on rende l'antenne, désolé.
Ouais, comme le dit Bébert.
Comme dit Bébert. Bon. Hey, comme dit Bébert. Salutations
écologiques
et solidaires.
À bientôt.
Et un petit message qui nous vient de l'émission de l'actualité de lutte. Demain, il y a un très gros risque d'expulsion du gymnase, donc l'expulsion des Tunisiens. Voilà, donc mobilisez-vous, restez branchés à l'antenne pour avoir des infos. Et comme il arrive aussi sur cette planète qu'une bonne partie de l'humanité soit aussi traitée comme du bétail, et ben on va finir sur un petit bout de bétail humain de mycélium avant de rendre l'antenne.
Devant la télé, envoûté par des publicités subliminales. Je pense à lui.